Nous allons parler du numéro 20 de la revue Tantique Critique qui sort cet automne 2020.
Alors, dans un premier temps, je ferai une rapide présentation de l'ensemble des textes, textes qui tournent quand même pour la quantitativement et aussi un petit peu du point de vue du contenu, ce qui est central, c'est sur la question de l'État et les différentes formes de l'État, avec deux articles donc conséquents sur la question, au moins au niveau de page et on espère en contenu. Il y a aussi un autre article théorique sur la question de l'émancipation qui vient un petit peu en contrepoint de l'orientation de la revue qui a souvent présenté cette émancipation comme étant dépassé en quelque sorte par ce qu'on a appelé la société capitalisée, qui fait que d'une manière générale les défaites des mouvements des années 70-80 ont fait que les mouvements de libération et d'émancipation de cette époque-là ont été battus et ont été ensuite réintégré dans une logique d'État dont on pourra parler tout à l'heure. Et Sophie Vanisch n'est pas du tout dans cette optique-là, même si elle reconnaît nos analyses sur l'État réseau. Donc voilà le gros des articles qui vous seront présentés. Nous avons aussi développé des choses autour de l'économie politique, de la crise sanitaire, mais il est moins besoin d'en parler dans la mesure où le blog a largement déjà fait allusion à tous ces points. Et il y a aussi un texte collectif important, mais dont on ne parlera pas ici, simplement en détail, mais on le mentionnera comme un exemple des capacités relatives d'intervention pratique de temps critique, même si nous ne sommes pas un groupe politique, ces capacités d'intervention dans les mouvements pratiques, en l'occurrence dans le mouvement des Gilets jaunes, et à partir d'un mode d'intervention qui n'était pas typiquement avant-gardiste, mais qui se fondait à l'intérieur d'un collectif plus général, voilà pour ce qu'on peut dire de l'ensemble de ce numéro 20. Donc on va commencer par le gros bloc qui représente l'analyse de l'État. Et tout d'abord le premier texte de Jacques Guigou sur les rapports entre État-nation et réseau. État réseau qui pose problème parfois, et beaucoup de lecteurs ou d'intervenants sur les blogs et autres nous ont fait remarquer que cette distinction n'était pas toujours claire ou était un peu artificielle, etc. Donc nous avons essayé de répondre à cette question finalement. Donc comment résumer ça? Disons que l'État-nation, comme l'État en général, n'a pas été finalement liquidé par la Révolution. C'est-à-dire que dans l'optique révolutionnaire, l'État devait être abattu, soit devait dépérir. On s'aperçoit qu'il n'a rien été. Il a suivi des évolutions qui n'ont pas toujours été linéaires. Les conflits de classe ont joué sur ces caractéristiques, etc., comme par exemple des années 30 jusqu'aux 30 glorieuses, les conflits de classe ont orienté les États-nations vers des formes d'État-providence qui étaient des formes qui ont pris une grande importance et qu'on croyait un petit peu définitives, et qui verrait finalement, comme le disait Henri Lefebvre, les systèmes, les grands systèmes converger, avec les systèmes étatiques des pays dits socialistes et les systèmes s'étatisant des pays capitalistes. Mais en fait, les affrontements des années 60-70 ont amené des restructurations de l'État et une certaine crise de l'État qui a complètement changé la donne à partir de ce moment-là. L'État s'est maintenu, mais dans de nouvelles dispositions, c'est-à-dire plus tel qu'il était analysé généralement dans le marxisme, c'est-à-dire en tant qu'État de classe, un État de forme différente qui a été assez mal analysé dans l'ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, très souvent dans l'optique marxiste et même anarchiste, l'État n'est pas posé véritablement comme n'est pas défini précisément, et souvent on voit apparaître une notion telle que l'oligarchie qui finalement s'impose comme s'il y avait un État oligarchique ou dirigé par les oligarchies qui correspondrait à la domination du capital sous sa forme mondialisée. D'où toutes les analyses libertaires ou même marxistes autour des 99% ou de l'anticapitalisme en général, dans lequel peuvent s'engouffrer aussi les mouvements d'extrême droite qui, par certains côtés, sont aussi anticapitalistes. Et cette analyse-là oublie complètement les questions de la hiérarchisation des rapports sociaux, la question du travail, la question des hiérarchies du travail, de la domination au travail, qui fait que ce n'est pas un système qui est en face de nous, même si ça prend son apparence, mais c'est dans tous les actes de la vie quotidienne un certain nombre de rapports de force et de rapports hiérarchiques qui sont essentiels et qui ne disparaissent pas sous prétexte que on serait le dominé d'un dominant, et chacun ayant son dominant et son dominé, etc., et que finalement tout le monde serait plutôt dominé, etc. En fait, l'État dans sa restructuration s'est fait société et il a rompu un peu avec ce qu'était l'État de classe et la célèbre distinction entre État et société civile, l'État étant séparé et supérieur à cette société civile, avec l'idée que l'État était, dans le marxisme par exemple, une superstructure idéologique et politique, et qu'il y avait une infrastructure de rapport de production, etc. Pour nous, cette analyse n'est plus valable depuis longtemps, et quand on dit que l'État s'est fait société, c'est parce que justement il ne peut plus être considéré comme une superstructure, mais il est l'infrastructure de la reproduction globale des rapports sociaux. Voilà, pour aller un peu vite. Donc cet État s'éloigne de sa forme d'État-nation, comme on peut le voir tous les jours, aussi bien avec les exemples de l'Union européenne et les questions des rapports entre la puissance de l'Union européenne et la puissance des États et les questions de subsidiarité entre les deux, comme on peut le voir aussi avec les tendances régionalistes, les conflits tels qu'en Catalogne, où éclate aussi cette forme d'État-nation qui est attaquée à la fois par la mondialisation, c'est-à-dire par le haut, et par le bas, par des phénomènes régionaux ou d'indépendance dans des pays où les États-nations n'ont jamais acquis la vérité, faibles, en quelque sorte, de l'État-nation, comme on peut le voir, dans une nouvelle balkanisation de l'Europe de l'Est et de l'ancienne Union soviétique, et aussi une balkanisation de l'Afrique qui ne correspond plus à ce qu'auraient dû être les États-nations de la décolonisation tels qu'ils ont été posés au moment de la décolonisation, même si c'est un problème qu'on n'aborde pas ici, donc on ne développera pas là-dessus. Donc, ce qui est nouveau par rapport à un texte que Jacques Guicou avait développé précédemment sur les prémices, les premières formes de l'État, je crois dans le numéro 17 ou dans le numéro 18, c'est que il théorise l'État comme à la suite de Lefebvre, comme une forme des formes, c'est-à-dire une sorte de métaforme qui cherche à mettre en forme les forces qu'il rencontre. C'est quelque chose qu'il fait depuis longtemps, mais il le fait sous une autre façon, d'une autre façon. Il y a trois façons donc de mettre en forme les forces. Par l'institutionnalisation, dans la mesure où elle permet d'intégrer les forces particulières au nom de l'universel. C'est comme ça que, par exemple, l'État a intégré le syndicalisme et la classe ouvrière, qu'il a intégré le féminisme, plus concrètement, qu'il intègre l'homosexualité par l'intermédiaire du mariage pour tous. La deuxième forme est la contention qui est une façon de ne pas s'opposer aux particularités, mais de les contenir, comme il l'a fait par exemple avec les Gilets jaunes au moment du grand débat, c'est-à-dire donner l'impression que il faut participer finalement à l'unité générale de l'État et non pas opposer ses particularités, etc. Et la troisième forme est la forme habituelle de la répression quand la contention échoue, comme c'était en partie le cas à un certain moment avec les Gilets jaunes. Alors dans cette façon aujourd'hui de mettre en forme les forces, il essaye de les mettre en forme non pas essentiellement de façon verticale comme il le faisait à l'époque de l'État-nation et par exemple par l'institutionnalisation, par la loi avec un grand L, par une mise en réseau. Bon, une mise en réseau qui peut être à la fois interne, c'est-à-dire que les fonctions de l'État elles-mêmes sont mises en réseau avec différents organismes qui sont qui sont créés pour créer cette mise en réseau, par exemple le réseau interministériel de l'État ou le ministère de l'Intérieur ou au ministère de l'Intérieur, le service d'information du gouvernement qui accompagne les services déconcentrés de l'État dans les préfectures dans leur stratégie de numérisation de leur communication vers les usagers, etc., etc., c'est-à-dire des formes beaucoup plus horizontales, disons. Et puis aussi, une composante externe qui promeut les dispositifs, les associations en réseau, etc. Mais tout ça dans une optique de conserver quand même l'unité de l'État, même si cette unité de l'État prend des formes différentes. Donc en fait, État-réseau, on nous a souvent posé la question, État-réseau et État-nation ne sont pas deux formes contradictoires, mais deux formes ni antagonistes ou séparées, mais deux formes combinées. Et aujourd'hui, on le voit bien, par exemple, dans le rapport à Internet, où cette combinaison saute aux yeux si on regarde à la fois la taxation des GAFAM. La taxation des GAFAM est typiquement une mesure qui relève de l'ancienne politique de l'État-nation, qui ne veut pas être débordée, qui ne veut garder le contrôle sur l'information, qui veut défendre ses anciens médiations, etc., qui veut défendre sa presse, qui veut défendre, etc. Et de l'autre côté, le tout 5G, qui, lui, est de l'ordre de l'État réseau, et qui, à la limite, est contradictoire, on peut être jugé contradictoire avec la taxation des GAFAM. En fait, les deux se combinent l'un à l'autre. Et c'est cette combinaison qui crée les nouvelles inclusions. Par exemple, à ce propos, les déclarations de Cédric O sont assez parlantes, c'est-à-dire que tout le monde doit être inclus dans l'Internet, et ceux qui n'y seront pas inclus devront être inclus de force. 20% de gens sont estimés non inclus, et des procédures vont être mises en place pour les inclure, soit par une formation obligatoire pour ceux qui travaillent, soit par une sorte d'assistanat pour ceux qui ne travaillent pas, les retraités, etc., puisque la nouvelle société, en quelque sorte, ne permettra plus à ces gens de vivre normalement à l'intérieur de la nouvelle société, puisqu'ils ne pourront plus payer, ils ne pourront plus communiquer, ils ne pourront plus faire ces tâches-là avec les moyens anciens. Donc, un dernier point, là aussi qui est une réponse de Jacques Guigou à des critiques qui ont été souvent faites, qui était, et puis même, disons, à nous, nos propres insuffisances, qui était finalement qu'on avait l'impression que l'État-nation était de l'ordre de ce qu'on appelait le niveau 2 de la domination, et l'État réseau, le niveau 1 de ce qu'on a appelé l'hypercapitalisme, dans de nombreux textes. Donc on aurait eu l'État réseau au niveau 1, intervenant au milieu d'autres réseaux, tels que les ONG, le FMI, l'ONU, les banques centrales, les grands syndicats, les GAFAM, etc. Et puis le niveau 2 qui aurait été du ressort de l'État, qui aurait dû, de l'État-nation, qui aurait eu à gérer les problèmes de terrain, les problèmes quotidiens, de faire passer le schmilblick, d'assurer la reproduction de la force de travail, de courir d'une usine qui ferme à une usine qui ferme quand les décisions se prennent au niveau 1, etc. Donc on avait l'impression de cette séparation comme une séparation des tâches, alors qu'en fait, si on y regarde bien, il y a une sorte d'homologie des interventions dans la mesure où dans chaque niveau, en quelque sorte, l'État-nation et les réseaux interviennent. Par exemple, au niveau 1, le retour des souverainismes et les conflits États-Unis, Chine, etc., Inde, etc., et d'autres conflits montrent que la question de l'État-nation ne disparaît pas à l'intérieur de la mise en réseau. C'est-à-dire que le niveau 1, qui est essentiellement organisé en réseau, n'est pas un super, comme aurait dit Kosky à son époque, comme il l'envisageait, une sorte de nouvelle négrie après, une sorte d'empire où les trucs auraient été réglés, où les choses auraient été réglées, et finalement il n'y aurait pas de conflit, il y aurait une unité en quelque sorte, un super impérialisme, un super capitalisme qui aurait réussi son unité. Non, c'est un ensemble conflictuel où les fractions s'opposent, et y compris des fractions nationales, comme on le voit entre les États-Unis et la Chine, qui sont à la fois en réseau et qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre, ni financièrement, ni économiquement, mais en même temps qui sont en compétition, et y compris au niveau politique et même militaire. Et puis au niveau du niveau 2, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que l'État-nation prend en charge la reproduction des rapports sociaux au niveau national qu'il est sur la base de l'ancien pacte républicain Et c'est bien ce qui pose problème en France et qui continue à poser problème avec toute la question du rapport à l'islamisme, à l'école, à la République, etc., qui serait droit dans ses bottes, dans la laïcité, etc. Non, il est travaillé constamment par le fait qu'il s'autocritique en quelque sorte en faisant intervenir les éléments du réseau, c'est-à-dire que le pacte républicain intégrait une idée de verticalité qui est hors de propos aujourd'hui dans cette domination de type horizontal, même au niveau 2. Ce qui fait que, au niveau de l'école, par exemple, on fait entrer dans l'école des choses qui avant ne seraient jamais rentrées. Alors on peut les faire rentrer sous forme d'instruction civique pour donner l'impression que ça continue à respecter le pacte républicain. Mais en fait, on le voit très bien, c'est les grands problèmes de société qui rentrent dans l'école, avec tous les particularismes, avec l'imposition plus ou moins masquée de l'écriture inclusive, les éléments décoloniaux qui viennent déconstruire l'histoire coloniale, le fait que l'essentiel, ce n'est plus d'apprendre l'histoire de France, mais c'est d'apprendre une histoire multiple. L'essentiel, c'est plus de savoir lire, écrire, compter, etc. Mais
c'est bon. Jacques, c'est bon.
Oui, alors si on s'est étendu beaucoup sur le premier texte, c'est parce qu'il il regroupait à la fois les thèmes de l'État-nation et de l'État-réseau et aussi celui de société civile. Donc le deuxième texte sur l'État et société civile, qui est pourtant plus long, va faire moins l'objet d'une présentation ici parce que il est enchâssé dans l'autre, et que si on a bien compris le premier, le deuxième coule de source. Et surtout parce que, du fait de la vulgarisation du terme de société civile, il a fallu faire dans toute la moitié du texte un retour sur l'historique de ce qu'est la société civile et comment elle a été théorisée, elle s'est développée, même avant Hegel, même dans l'Antiquité où elle apparaît, jusqu'à, en passant par Gramsci, et même les nouveaux théoriciens de l'école de Francfort à la Habermas. Donc il y a toute une partie historique que je ne résumerai pas ici. Donc un terme qui a une certaine richesse au départ, mais qu'il a perdu justement dans cette vulgarisation et médiatisation qui fait qu'actuellement, et ça a d'ailleurs été l'origine de l'article, qui est que quand on lit les journaux, le terme de société civile est employé à tort et à travers par les journalistes, par les politiciens, etc., qu'on a l'impression que la société civile est omniprésente, etc. Donc c'était ça un peu qui justifiait à la fois l'article, pour démystifier un peu ça, et puis qui justifiait aussi l'historique pour voir que cette notion de société civile, elle peut justement pas être employée dans tous les sens, et qu'elle avait un sens précis qu'elle a justement perdu. En fait, ce terme de société civile avait quasiment disparu jusqu'aux années 80-90, et a reparu un peu par la bande, en quelque sorte, à partir de la fin du bloc soviétique, et particulièrement dans les pays de l'Est. Ce qui s'est affirmé comme une sorte de dissensus à l'intérieur de ces sociétés-là a pris la forme d'un citoyennisme de la société civile, qui reprenait des éléments de l'ancienne société civile de l'époque de la société bourgeoise face à l'État, parce que d'une certaine façon, surtout dans les pays de l'Est, c'était moins net en URSS parce que il y avait eu une révolution, quoi qu'on en dise, et une révolution sur une société paysanne, mais dans les États de l'Est, il y avait des régimes bourgeois et certains assez développés, comme en Tchécoslovaquie, comme en Hongrie, etc., même en Pologne, et que ces systèmes, ils ont été comme congelés, en quelque sorte, par l'armée rouge. Donc, en fait, certains problèmes qui se sont reposés à ce moment-là, dans les années 80, dans la lutte démocratique pour sortir de ce contexte-là, on fait ressortir cette notion de société civile parce que il y avait dans ces pays une coupure entre État et société qui n'existait déjà pratiquement plus dans les pays occidentaux et dans les pays capitalistes les plus avancés. Donc le terme est apparu avec le poids des associations, même religieuses, etc., dans la lutte contre le pouvoir en place dit socialiste. Qui a été l'un des éléments de dissolution du pouvoir dans ces pays-là. Donc il y avait cette résurgence à ce moment-là, et résurgence qui a trouvé un certain écho à l'Ouest à travers un mouvement de de résistance un petit peu au néolibéralisme sous la forme de l'indignation avec Stéphane Hessel, etc. C'est-à-dire l'idée que il y aurait un décrochage, que tout à coup un certain État néolibéral se serait détaché de la société, de la même façon que la finance se serait détachée de l'économie réelle. On aurait un certain nombre de détachements, et ce détachement ferait que il y a un espace de contestation de la part de cette société civile pour contester l'État, quoi. Donc ce citoyennisme, cette idée citoyenne a été beaucoup critiquée. On l'a beaucoup critiquée à l'époque dans les milieux d'extrême gauche, surtout les milieux ultra-gauche, etc. Mais ça a continué à faire son œuvre, en quelque sorte, à travers des mouvements comme aussi Occupy Wall Street, et voilà. Et puis, à part l'aspect résistance, il y avait aussi l'évolution, résistance limitée, mais à part l'aspect résistance, il y avait aussi l'évolution du capital qui a fait que, enfin, des rapports socio-capitalistes, qui a fait que la délégitimation des pouvoirs politiques a aussi renvoyé l'idée qu'il y avait à nouveau une séparation absolue entre l'État, alors qu'on a vu dans le premier texte que c'était pas le cas, mais qu'il y avait c'était ressenti en tout cas par les individus comme une séparation absolue entre la société politique et la société non politique, finalement appelée société civile. Et cette délégitimation auquel ont participé les médias, les juges des différents pays en tapant sur les hommes politiques à tire-larigot et en les condamnant, en les convoquant devant les tribunaux pour des malversations ou des corruptions diverses. On fait que dans beaucoup de pays, il y a eu une remise en cause des élites politiques, et cette remise en cause des élites politiques, elle a pour la France, par exemple, pour prendre l'exemple concret, elle a amené le gouvernement Macron, qui est typiquement un gouvernement qui a voulu se situer en critique, et les gens vont voter pour lui aussi, en critique de cette délégitimation de la politique, de façon à ce que ça change dans le cadre d'un un gouvernement qui serait qui romprait avec cette division et qui ferait appel à des éléments, comme il le disait, des éléments de la société civile, issus de la société civile, d'après les termes employés, c'est-à-dire l'essai de fondre en fait les tâches gouvernementales dans une sorte de gouvernance beaucoup plus abstraite, pas directement politique, mais regroupant les experts, regroupant les associations qui comptent. Donc finalement, par rapport au pacte républicain et à l'ancien monde tel que le définissait par exemple Macron, cette idée du nouveau monde, c'était un peu de remplacer, c'est là que l'histoire de le deuxième article rejoint le premier, c'est que ça collait avec l'idée de réseau, cette idée de nouveau monde, c'est-à-dire d'une organisation où la domination et la totalisation qui s'effectue quand même, elle s'effectue plus de manière horizontale que de manière verticale. Alors la crise sanitaire en est un bon exemple, où se mêle à la fois les soi-disant politiques qui ne sont plus des vrais politiques, les experts du conseil scientifique, et puis les soignants qui deviennent tout à coup, même si on les appelle comme ça, non plus des membres de la société civile, mais des membres de l'État-réseau, c'est-à-dire une sorte de ce que Jagigou appelle les intermédiations, c'est-à-dire que tout un ensemble d'acteurs deviennent des intermédiations entre ce qu'on aurait appelé les masses et le pouvoir, et viennent remplacer les anciennes médiations et les institutions. C'est-à-dire que on le voit sur la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit la politique de santé, et c'est valable pour les autres pays aussi, au lieu que ça soit la politique de santé qui se soit imposée et qui ait répondu au coronavirus, c'est pas du tout une politique de santé que la plupart des pays capitalistes ont de fait ignoré ou l'ont abaissé ou ont taillé à serpe à l'intérieur pour baisser les budgets consacrés à cette politique de santé. C'est pas du tout cet axe qui a agit dans le coronavirus. C'est pas l'État-nation, c'est pas la forme État-nation qui est intervenue là, c'est la forme État-réseau en envoyant sur le terrain les premiers et les deuxièmes de cordée qui ont fait office de lien finalement mais sans qu'on puisse les séparer finalement de l'État, c'est-à-dire sans que on puisse établir une séparation entre ce qui serait la société politique et la société civile. C'est-à-dire que, là aussi, comme le dit Guillou, il y a une sorte de combinatoire entre les deux qui s'effectue. C'est-à-dire que la société capitalisée est justement cette société qui supprime la distinction entre société civile et société politique en supprimant les médiations, tout au moins en secondarisant les médiations qui marquaient la séparation. C'est-à-dire que comme exemple de séparation, par exemple, c'est l'institution justice qui vous sépare du pouvoir et qui vous relie au pouvoir aussi si vous êtes condamné, mais c'est cette institution qui sert de médiation. Aujourd'hui, c'est des connexions beaucoup plus diverses qui servent de médiation. Et par exemple, vous n'êtes pas obligé de passer par la case prison. Il y a tout un tas d'aménagements. Il y a tout un tas de maisons de justice qui remplacent le tribunal. Il y a tout un tas de...
Le bracelet.
Oui, le bracelet électronique, etc. Mais il y a aussi tout un tas de travaux d'intérêt général qui remplacent, etc. Voilà, c'est toujours le même mécanisme qui est de supprimer les médiations qui faisaient que dans l'optique verticale, le bien était distingué du mal, le vrai du faux, etc. La loi de l'absence de loi. Alors que dans les intermédiations, tout se situe sur comme disent les postmodernes, sur des intersections, en fait. Donc pour conclure, on peut dire que le capital continue à faire société, capitalisé, on le dit, mais en dehors des catégories hegeliennes et marxistes qui servaient à catégoriser justement l'État. Donc l'article a posé en fait historiquement cette évolution-là pour montrer le côté abusif du réemploi du terme de société civile. La société civile, aujourd'hui, c'est un discours de... Je terminerai par ça. C'est un discours de reconstruction idéologique à des fins politiques. Mais en tant que telle, la société civile, elle n'existe plus.
Oui, je vais passer à l'article de Sophie Vanisch qui s'appelle « Révolution et émancipation sont-elles encore pensables aujourd'hui ?» C'est un vrai article qui est en contrepoint. Il n'a pas en contrepoint que par rapport à ce numéro de la revue, il est en contrepoint sur la question de la révolution et la question de l'émancipation qu'on aborde de façon très différente de ce que Sophie nous propose. Ce que Sophie Vanisch propose, elle nous dit qu'il n'y a pas de révolution sans sujet émancipé. Alors comme l'émancipation est au cœur de sa pensée, elle cherche toutes les possibilités dans le présent. Pour ce faire, elle nous parle de la glu du langage, c'est une partie qu'elle présente, et elle prend exemple dans le langage cartésien d'avant la Révolution française, qui a permis un usage extensif de la raison universelle, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'a permis vraiment que s'articule une pensée dans le présent, une analyse dans le présent, des nouvelles manières de comprendre ce qui se passait à ce moment-là, alors qu'il y avait des intérêts contradictoires qui se faisaient jour petit à petit, entre la monarchie, la bourgeoisie, le petit peuple, etc. Elle nous présente ça et elle passe aussi à nous citer les luttes présentes comme étant porteuses de leur langage finalement, que ça soit dans les actes, que ça soit le mouvement des places, tarir, et Occupy Wall Street aussi. Et elle nous dit que ça ouvre, en nous reprenant une explication qu'avait donnée Passo Brolla, un champ de nouvelles significations sociales. Effectivement, on peut y voir plusieurs sources de réémergence de significations sociales différentes, mais c'est surtout sur le mouvement des Gilets jaunes qu'elle trouve quelque chose finalement assez intéressant. C'est-à-dire qu'elle dit, elle cite ce qu'il y a sur un gilet d'un gilet jaune qui avait marqué « Merci Macron, tu nous as rendu la fraternité d'où nous venons, chercher la liberté et l'égalité ». Elle y perçoit là, en fait, des éléments d'une contre-hégémonie au discours qui lamine aujourd'hui le présent, et qui est d'abord un discours du capital, et qui s'exprime pas que par la pub, mais qui s'exprime par exemple au travail, quand on sort tous les néologismes possible de présentiel, etc. Donc elle articule une histoire de l'émancipation où il y a des moments d'indistinction où les individus ne sont plus assignés. Et c'est sûr que pour elle, le mouvement des Gilets jaunes a été un stade, en tout cas un groupe en fusion. Et si on reprend, en fait, elle se base sur les termes de Sartre en disant que ça permet de rompre avec la logique sérielle, c'est-à-dire le pratico-inerte. Et comme dit Sartre, le pratico-inerte est toujours indépendant dans la situation qui se répète avec les mêmes gestes, mêmes problématiques, et où nulle liberté n'y préside. J'ai envie de parler du le groupe en fusion, en fait, c'est vraiment ce moment où le groupe, l'individu, transforme activement le système et ses règles, et on l'a bien vu dans les Gilets jaunes, au moment où le rond-point est devenu autre chose qu'un lieu de passage urbain, et, ou pas urbain justement, et où, par exemple, les manifestations ne respectaient plus les règles habituelles. Pour conclure, je vous lirai la phrase finale de son article. Sans doute que si les désirs de liberté et d'égalité témoignent de l'aspiration subjective universelle, on peut comprendre que chaque situation historique la reconfigure et qu'à ce titre, oui, l'universel est toujours singulier. Juste un petit bémol, on aurait tendance quand même à dire de notre point de vue que c'est contradictoire avec son idée d'émancipation, car elle la voit un peu comme éternelle, comme s'il y avait une suite logique de la révolte de Spartacus a mis tout à aujourd'hui, alors que cette notion d'émancipation, elle doit être évaluée au niveau historique et reconfigurée en conséquence.